VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 31 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord, les titres. L'Union africaine appelle à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC où les rebelles M23 progressent. En Somalie, au moins 100 morts dans un double attentat à la voiture piégée pendant le week-end à Mogadiscio. Au Burkina Faso, 13 soldats et 2 supplétifs de l'armée tués dans une embuscade de djihadistes présumés dans l'est du pays. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva a battu de justesse le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Au Liban, aggravation de la crise politique, le président Michel Aoun quitte le palais présidentiel à la veille de l'expiration de son mandat. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Ongpatine. Pour l'instant, le journal. L'Union africaine a appelé hier à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RD Congo, où les rebelles du M23 poursuivent leur offensive contre l'armée congolaise et sont désormais à quelques dizaines de kilomètres de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, Michel Joseph.
L'UA, qui se déclare extrêmement préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du Congo, appelle toutes les parties à établir un cessez-le-feu immédiat, à respecter le droit international, la sécurité des civils et la stabilité aux frontières de tous les pays de la région. Les tensions demeurent vives à Goma, où des jeunes ont brûlé dimanche un drapeau rwandais et manifesté leur colère contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23. Les manifestants, à pied ou à moto, ont fait le tour des églises pour appeler les habitants à une grande marche ce lundi contre l'agression du Rwanda.
Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23, a décidé d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en RDC. L'annonce en a été faite ce week-end par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, alors que le M23 gagnait du terrain. Précision de John Linden.
Tout a commencé par un regain de force du M23 qui a gagné du terrain samedi dans l'est de la RDC, s'emparant notamment de deux villes, Kiwanja et Rushuru Centre, situées sur la route nationale 2, axe stratégique desservant Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Face à cette avancée, le président Félix Tshisekedi a dû présider samedi à Kinshasa une réunion élargie du Conseil supérieur des défenses pour évaluer la situation après une série d'attaques et d'occupations de localités congolaises par le M23, une ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes fin 2021 et qui est appuyée par l'armée rwandaise, selon Patrick Muyaya, dans un communiqué lu à la télévision officielle. Au regard de cette situation, le Conseil supérieur des défenses a demandé au gouvernement d'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Kariga, ambassadeur du Rwanda en RDC, du fait notamment de la persistance de son pays à agresser la RDC, a ajouté le porte-parole. Kinshasa accuse depuis des mois Kigali de soutenir le M23. Kigali nie tout en bloc et affirme de son côté que la RDC collabore avec des rebelles hutus rwandais.
Le porte-parole Patrick Muyaya est le porte-parole du gouvernement congolais. RDC toujours, le bilan de la bousculade de samedi lors d'un concert du musicien congolais Fally Ipupa dans le grand stade de Kinshasa s'établit maintenant à 11 morts, 9 spectateurs et 2 policiers, c'est ce qu'a indiqué hier le ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito en mettant en cause les organisateurs. L'agence congolaise de presse, citant le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa, avait auparavant fait état de 8 morts, dont un policier. Au moins 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées samedi dans un double attentat à la voiture piégée revendiquée par les Chebabs somaliens sur une artère très fréquentée de Mogadiscio, la capitale somalienne. Le centre de Mogadiscio est régulièrement la cible d'attentats de ces djihadistes affiliés à Al-Qaïda depuis qu'ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Yacouba Ouédraogo.
300 personnes ont également été blessées, a précisé le président Hassan Cheikh Mohamoud après s'être rendu sur le site des attentats, soulignant que le nombre de morts et de blessés continuait à augmenter. Deux véhicules piégés ont explosé samedi à quelques minutes d'intervalle. À la suite des explosions qui ont soufflé les fenêtres des bâtiments voisins, des dizaines de personnes ont submergé les hôpitaux et cliniques dans ce pays au système sanitaire ravagé par des décennies de conflits. La double attaque revendiquée par le groupe terroriste Al-Shabaab a été condamnée par l'ONU ainsi que par l'Union africaine et la mission de l'ONU en Somalie, qui s'est engagée à se tenir résolument aux côtés de tous les Somaliens contre le terrorisme. À Bruxelles, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a condamné fermement ce double attentat, réaffirmant la détermination des Européens à lutter contre le terrorisme et à défaire le groupe Al-Shabaab. Le pape François a présenté dimanche ses condoléances aux victimes de l'attentat.
Ici à Washington, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a souligné dans un communiqué que les États-Unis dénoncent de leur côté une attaque haineuse et assurent les autorités somaliennes de leur soutien dans le combat pour prévenir de tels attentats terroristes impitoyables. 13 soldats et 2 supplétifs civils de l'armée ont été tués ce week-end dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso. L'annonce en a été faite hier par l'état-major de l'armée Mohamedou Houmfa.
Le samedi 29 octobre, une unité du détachement militaire de Natiobouani et un groupe de VDP, volontaires pour la défense de la patrie, de retour d'une mission de ravitaillement à Fadangoutma, ont été pris à partie par un groupe de terroristes à hauteur de Kikideni, dans la région de l'Est, indique l'armée. Les combats ont coûté la vie à 15 combattants, dont 13 militaires et 2 VDP. On enregistre également 4 blessés, dont 3 militaires et 1 VDP. 11 personnes sont encore recherchées, précise l'état-major. Cette attaque survient peu après celle de lundi à Dibo, grande ville du nord du Burkina Faso, sous blocus djihadiste depuis 3 mois, au cours de laquelle 10 soldats ont été tués et une cinquantaine blessés. Investi président de la transition le 21 octobre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré s'est donné pour objectif de reconquérir le territoire occupé par les terroristes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants du monde, dont les présidents américains Joe Biden, français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine, ont unanimement félicité la victoire hier de Luis Inácio Lula da Silva, 50,9% des voix face au président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro, 49,1%, à l'issue d'une campagne ultra polarisée. Le Brésil est de retour, a lancé le président élu Lula, prônant la paix et l'union. Le silence de Jair Bolsonaro, qui ne s'était toujours pas manifesté après l'annonce du résultat final, laisse planer la menace d'une éventuelle contestation de ces résultats le plus serré depuis le retour à la démocratie après la dictature militaire de 1964 à 1985. Ici aux États-Unis, 9 jours avant les cruciales élections de mi-mandat, un ancien président démocrate qui reste très populaire au sein de son parti fait vigoureusement campagne, Michel Joseph.
D'ici au 8 novembre, date de ce scrutin aux enjeux conséquents, c'est Barack Obama que l'on verra partout sur le terrain et dans les clips de campagne plutôt que l'actuel locataire de la Maison Blanche. Vendredi, les deux hommes ont toutefois pris la parole au même moment dans 2 coins des États-Unis. Joe Biden en Pennsylvanie, dans le nord-est, et Barack Obama en Géorgie, dans le sud. 2 États déterminants pour la campagne du Parti démocrate. Et tous deux ont décliné, au fond, le même discours. Il s'agit de sauver la démocratie américaine en faisant barrage aux républicains, le parti de Donald Trump. S'il gagne, impossible de dire ce qui pourrait se passer, a dit à propos des conservateurs un Barack Obama en verve à son auditoire à Atlanta. Pour l'heure, les sondages prédisent que le Parti démocrate gardera sa mince majorité au Sénat, mais perdra le contrôle de la Chambre des représentants au profit de l'opposition républicaine.
Michel Aoun a quitté dimanche le palais présidentiel à la veille de l'expiration de son mandat sans successeur désigné en raison des divisions politiques, contestant même au premier ministre démissionnaire le droit de diriger le Liban en plein effondrement économique. Le mandat de 6 ans de Michel Aoun achève sans que les députés soient parvenus à élire son successeur en raison donc de leur division politique. Ukraine, eh bien, plusieurs explosions ont été entendues ce matin à Kiev, 3 jours après une attaque sur la flotte russe en Crimée que Moscou a imputée à l'Ukraine avec l'aide de Londres. À la suite de cette attaque, la Russie a suspendu l'accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens, vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial, suspension qu'a dénoncé Kiev. La capitale avait déjà été frappée les 10 et 17 octobre, notamment par des drones russes de fabrication iranienne. Au moins 120 personnes sont mortes et plus de 130 secourues en Inde quand un pont piétonnier de l'époque coloniale enjambant une rivière s'est effondré hier soir dans l'état du Gujarat. Selon les autorités, 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, célébraient une fête religieuse sur le pont et aux alentours lorsque les câbles qui le soutenaient ont cédé peu après la tombée de la nuit. Le pont venait de rouvrir au public après des mois de travaux. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec d'abord le début de la Ligue des champions féminines au Maroc.
Oui, et à Rabat dans le groupe A, les Zambiennes de Great Buffaloes démarrent fort en dominant largement les Libériennes de Determine Girl 4-0. Et puis, les Marocaines de l'ASFA ont réalisé le minimum devant les Tanzaniennes de Simba Queens 1-0. Le groupe B entre en compétition aujourd'hui et la tenante du titre, Mamelodi Sundowns, croisera les Nigérianes de Bayelsa et en deuxième heure, on aura l'opposition Wadi Degla d'Egypte TP Mazembe de Lubumbashi.
Chez les hommes maintenant et au niveau des moins de 23 ans, on connaît les qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN de 2023.
Et le tenant du titre, l'Égypte, y sera après son coup succès 1-0 devant les Swatini. Au prochain tour, elle jouera la Zambie qui a sorti la Sierra Leone. Qualification également du Nigeria devant la Tanzanie et du Sénégal au tir au but face au Burkina Faso. Les Lions Espoirs croiseront ensuite le Mali vainqueur 1-0 du Rwanda. Un résultat insuffisant selon le sélectionneur des Aigles Espoirs, Alou Badra Diallo, au micro de notre correspondant Siaka Traoré.
On a travaillé toute la semaine devant les buts. Je pense que et on a été défaillant dans certains comportements. Derrière, jusqu'en attaque, ça n'a pas été vraiment un match que moi je voulais qu'on offre au public. Ça n'a pas été comme ça. Donc, je retiens seulement la qualification pour ce match-là. La suite, il faut bien se préparer.
Et ça passe aussi pour la RDC. Malgré sa défaite 3-1 en Algérie, les Léopards avaient emporté 4-1 à l'aller pour affronter le Ghana qui a éliminé le Mozambique. Le Cameroun également. Après avoir écarté sans gloire, l'Angola a Yaoundé 0-0 au retour après un succès 3-2 à l'aller.
Un troisième et avant-dernier tour que ne verra pas la Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Les espoirs ivoiriens qui avaient atteint les quarts de finale à Tokyo ont été éliminés par le Niger qui a bénéficié du 8 marqué à l'extérieur 1-1 à Abidjan après le nul 0-0 de Niamey. Les Nigériens joueront le Soudan battu 3-1 par le Bénin. Un succès qui ne compense pas la défaite 2-0 du match aller pour les Béninois. C'est fini aussi pour la Tunisie, sortie par le Congo-Brazzaville et le Togo qui tombe devant l'Afrique du Sud qui défiera le Gabon pour décrocher l'un des 7 tickets pour cette CAN. Ce sera en mars prochain.
La balle au panier à présent avec les qualifiés du groupe C pour l'élite 16 de la Basketball Africa League.
Exactement, Idrissa, un groupe C dont les éliminatoires ont eu lieu à Dar es Salaam en Tanzanie. Et ce sont les Burundais d'Urunani et les Ougandais de City Oilers qui ont obtenu les deux tickets qualificatifs. Urunani termine en tête avec 3 victoires en 3 matchs. La dernière, face aux Zambiens de Matero Magic 72-53, alors que City Oilers a dû battre le club hôte les militaires d'ABC 71-63 pour valider sa qualification.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Union africaine s'est déclarée extrêmement préoccupée dimanche par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est troublé de la République démocratique du Congo, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Kinshasa a annoncé samedi l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en RD Congo, alors que s'intensifient dans l'est de la RDC les combats contre la rébellion du M23 que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir, ce que dément Kigali. Pour une analyse de cette situation, John Linden a joint Danny Aida, directeur pays du NDI, National Democratic Institute en RDC.
Mais je pense que les derniers développements dans l'est de la RDC avec les manœuvres des nations militaires du M23 et les suspicions qui sont devenues assez graves de l'ingérence du soutien de l'armée rwandaise expliquent cette position des autorités congolaises qui demandent le départ de l'ambassadeur et qui veut certainement prendre des mesures de rétorsion contre le Rwanda.
Dans sa réaction à cette demande d'expulsion de son ambassadeur, le Rwanda dit regretter que le gouvernement de RDC continue de faire porter au Rwanda donc la responsabilité de ses propres échecs de gouvernance et de sécurité. Est-ce qu'on craint pas une escalade, que ce soit au plan militaire que diplomatique?
Tout à fait. Je pense que l'escalade est parfaitement atteinte parce que vous savez, les accusations congolaises contre le Rwanda ne datent pas de maintenant. Et actuellement, les autorités congolaises brandissent un certain nombre de preuves pour démontrer l'engagement militaire rwandais sur le territoire congolais. Il y a des réactions aussi, par exemple, la MONUSCO pour condamner cette situation. Il n'y a pas si longtemps, un officiel américain également réagit à cette situation. Donc, je pense qu'il y a assez d'éléments qui semblent corroborer l'ingérence du Rwanda dans ce conflit à l'est de la RDC, notamment en soutien au M23. Et si tout cela est confirmé, je pense que c'est suffisamment grave. Non seulement les accusations, mais les décisions prises par les autorités. Mais ça ne doit pas laisser indifférent la communauté sous-régionale qui a déjà pris des initiatives du côté de Nairobi, du côté de Rwanda. Et la RDC accuse actuellement notamment le Rwanda de ne pas respecter les initiatives de paix qui ont été prises par le Kenya et l'Angola pour essayer de rapprocher les positions. Donc je pense que la situation s'empire sur le terrain et avec des séquelles sur le plan humain qui sont assez regrettables.
S'agissant des accusations de Kinshasa, Kigali nie tout en bloc et affirme même de son côté que la RDC collabore avec des rebelles hutus rwandais. Est-ce qu'on fait preuve de mauvaise foi du côté de Kigali ou bien il y a une part de vérité aussi?
Je pense que le Rwanda disait la même chose par le passé jusqu'à ce que les autres puissances de la région ne démontrent sa participation. Et les sommets qui ont été organisés avec la participation du président Kagame ont tendu à faire à croire qu'en fin de compte, le Rwanda reconnaît jouer un rôle dans ce conflit-là, qui n'est pas seulement intercongolais. Donc, je crois que les efforts qui étaient consentis au niveau de la sous-région, avec l'escalade qu'on constate, doivent pouvoir se réactualiser, se renouveler, pour que assez rapidement, non seulement on voit comment éviter que l'escalade ne conduise à une guerre ouverte entre les deux pays, ce qui risque de déstabiliser encore plus cette sous-région qui est assez volatile.
Danny Aida, directeur pays du NDI, National Democratic Institute, en RDC. Au tiers de plusieurs manifestants arrêtés lors des protestations du 20 octobre ont été envoyés à la prison de Korotoro, située dans le désert, l'une des prisons les plus horribles du pays. Par ailleurs, certains responsables politiques et religieux continuent de prendre position sur ces événements dramatiques. Pour faire le point, Nanit Talani a joint à N'Djamena, au Tchad, le docteur Évariste Ngarlem-Toldé, politologue et enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
La tête est encore à ses débuts parce que, en ce moment, une forte délégation à Moussoro et à Korotoro, qui sont les plus grandes prisons où la plupart des manifestants ont été déportés. C'est pour essayer donc d'établir les responsabilités des uns et des autres. Donc, en ce moment, nous dirons que l'enquête ne fait que commencer.
Peut-on savoir combien de personnes ont été envoyées dans la prison de Korotoro et quelle est leur situation?
Le nombre exact n'est pas encore annoncé. Selon diverses sources, si certains parlent de 200, d'autres parlent simplement de plusieurs centaines. Maintenant, les conditions d'abord de leur transport, de leur déplacement de N'Djamena vers leur lieu de détention, il y a eu des arrêts en cours de route et des images ont démontré des bastonnades qu'ont subi ça et là ces prisonniers avant donc d'atteindre leur lieu de détention. Aujourd'hui, dans ces prisons aussi, Moussoro est une ville qui est un chef-lieu de province. Pas du tout la même chose pour Korotoro qui est situé donc dans le Borku, qui est dans une zone désertique, qui est pratiquement isolée, où les conditions même de vie d'abord sont très difficiles et combien de fois les conditions de détention des prisonniers qui manquent de tout pour le moment.
En dehors de Korotoro, dans quelle autre prison ou dans quelle autre ville les manifestants arrêtés ont-ils été envoyés?
Pour le moment, c'est Korotoro et Moussoro qui sont cités en premier lieu. Dans la plupart des cas, ici à N'Djamena, il y avait une école à Abena qui a servi aussi de prison. À l'improviste, c'est une prison improvisée où les gars ont été détenus pendant plusieurs jours. On dénombrait chaque jour quelques morts qui étaient évacués et envoyés donc à la morgue. Mais les autres prisons, à ma connaissance, à part les prisons des principales villes de N'Djamena, de Mundu, de Doba, de Koumra et de Sar, sont les prisons de Korotoro et de Moussoro qui ont accueilli donc le plus grand nombre de prisonniers.
D'accord. Les leaders politiques et religieux continuent de prendre position sur les événements du 20 octobre. Que disent-ils?
La plupart des voix sont inaudibles en ce moment. Il y a surtout l'évêque de Mundu qui est en accueillant les délégations envoyées pour la réconciliation. L'évêque de Mundu avait dit crûment au ministre de l'Agriculture et du Pétrole qu'un peuple qui manifeste ne peut pas mourir d'une manifestation. Et que s'il y a des mentalités qu'il faut changer, ça doit être du gouvernement et des forces de l'ordre.
Le docteur Évariste Ngarlem-Toldé, politologue et enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
À Bamako, au Mali, la pollution du fleuve Niger a pris de l'ampleur ces temps-ci, entraînant la rareté et la cherté du poisson sur le marché national. Les pêcheurs, les revendeuses et les ménagères, victimes de cette situation, interpellent les autorités du pays. Sur place, notre correspondante Mariam Kouyaté.
Elle se lève aux premières heures pour acheter du poisson au prix de gros avant de le revendre sur le marché national afin de réaliser des bénéfices pour pouvoir nourrir leur famille. Ce sont des femmes vendeuses du poisson à Bamako. Mais depuis quelque temps, le poisson se fait rare sur le marché national. Une situation qui pèse sur leur business. La rareté du poisson ne nous arrange pas car elle se répercute sur son prix et quand c'est comme ça, nous perdons la clientèle, pas de bénéfices non plus. Même constat pour Kumba Traoré, vendeuse de poissons.
Nous vendons certaines qualités de poissons présentement à un prix qu'on n'oserait pas imaginer avant. Le kilo du poisson capitaine était vendu à 4500 francs CFA, mais aujourd'hui on le vend à 6000 francs CFA. Ce qui veut dire que le prix a beaucoup augmenté chez nos pêcheurs artisanaux.
Le poisson se fera sur le marché national. Où se trouve le nœud du problème? Autant d'interrogations, mais des pêcheurs artisans ont un mot à dire à propos de la situation. Mamadou Niaré et Samba Khan sont des pêcheurs.
On ne gagne pas des poissons à cause de plusieurs facteurs. Avant, les fleuves étaient très propres, mais maintenant les fleuves sont très pollués avec des eaux usées, des déchets domestiques, des produits chimiques provenant des têtes.
Cette situation ne laisse pas indifférents les consommateurs. Biaki Diawara.
L'eau est polluée présentement. Le fleuve est détruit à cause de l'orpaillage par drague. Les produits chimiques sont déversés dans le fleuve tels que les cyanures qui tuent les poissons. Nous avons alerté nos autorités en vain.
La rareté du poisson et sa cherté sont aussi constatées dans plusieurs localités du Mali. Les responsables de la filière poisson jugent la situation alarmante et interpellent les autorités. Mariam Kouyaté Bamako pour la Voix de l'Amérique.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVOA Afrique 24 heures sur 24.
Le président américain Joe Biden a mis en avant son programme économique tout en faisant campagne pour son parti démocrate avant les élections du 8 novembre. Mais l'inflation galopante, les prix de l'énergie et l'anxiété économique causée par la pandémie et la guerre en Ukraine rendent l'économie difficile à défendre contre les républicains qui ont fait des difficultés économiques actuelles leur principal sujet de discorde. Un reportage d'Anita Powell, récit de Thierry Kaoré.
À moins de 2 semaines du scrutin, le président Joe Biden s'est rendu dans le nord de l'État de New York pour expliquer aux travailleurs des organisations syndicales comment son gouvernement définit le succès dans la gestion de l'économie.
Nous sommes dans une bien meilleure situation. 10 millions d'emplois ont été créés depuis notre arrivée au pouvoir. Un record pour toutes les administrations de l'histoire américaine. Le chômage est à 3,5%, le taux le plus bas depuis 50 ans. 5,4 millions d'Américains ont fait une demande de création des petites entreprises, le niveau le plus élevé de l'histoire américaine.
C'est l'argument que l'administration a mis en avant. Malgré les prix élevés de l'essence et l'inflation record, le véritable reflet de la santé de l'économie réside dans les indicateurs plus larges comme la croissance de l'emploi. Et que pensent les électeurs? La VOA a rencontré quelques électeurs dans l'État occidental peu peuplé du Wyoming, un bastion républicain. Randy Mulcahy travaille dans la toiture.
Quand nous avions Donald Trump au pouvoir, l'économie se portait bien, les retraites des gens se portaient bien, tout le reste se portait bien. Et depuis qu'il n'est plus au pouvoir, vous voyez que tout ça a pris un coup et a commencé à chuter assez sérieusement.
Les élus républicains reprennent largement cet avis à l'approche des élections du 8 novembre. Quel que soit le poste pour lequel ils se présentent, les candidats disent que s'ils gagnent, ils s'opposeront à Biden de toutes les manières possibles. Sarah Sanders, candidate républicaine au poste de gouverneur de l'Arkansas.
Et peu importe celui qui sera notre prochain gouverneur, il devra être capable de se lever et de faire pression sur Joe Biden et ses mauvaises politiques qui ont un impact sur l'ensemble de notre pays.
Le coût de la vie des Américains a augmenté l'année dernière. Le taux de l'inflation aux États-Unis est de 8,1%, plus élevé que la moyenne des pays du G7, mais faible par rapport à la moyenne mondiale. Mais les spécialistes des sondages disent que les données brutes sur l'économie n'influencent pas vraiment les électeurs. En revanche, l'anxiété concernant leurs propres résultats financiers les affecte. Chris Jackson est vice-président senior d'Ipsos Research.
En fait, lorsque nous demandons aux gens quel est leur principal problème, la question de l'économie est celle qui bat tout le reste par au moins 3 contre 1.
Et les inquiétudes concernant l'économie peuvent susciter un désir de changement politique, selon Chris Jackson.
Je pense que cela nous indique que les Américains sont préoccupés par l'économie, par le climat économique général et qu'ils en rendent responsable celui qui est au pouvoir à ce moment-là. Pour l'instant, c'est le Parti démocrate. Il y a donc de fortes chances que les démocrates aient plus de mal lors de ces élections de mi-mandat.
Les Américains seront fixés sur leur sort le 8 novembre, jour des élections.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sevudia, à la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.